9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Pourquoi la nomination d'Elisabeth Borne et la composition du gouvernement ont-elles pris autant de temps alors que c'est le même casting, grosso modo, et le même programme? Le politologue Jérôme Sainte-Marie est en direct ce matin pour nous aider à percer l'énigme. On s'intéressera ensuite à l'OTAN avec Jean-Sylvestre Montgrenier, la demande d'adhésion sans délai de la Finlande et de la Suède et la preuve que ce club qu'on croyait mort il y a un an revient à la mode. Et l'on terminera l'émission avec Fab Caro. Il est actuellement dans les meilleures ventes en librairie avec un roman photo, Guacamole Vaudou.
Europe 1.
Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour.
Vous êtes sondeur et politologue, président de l'Institut Polling Vox. Deux de vos livres ont beaucoup fait parler depuis leur parution, Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme, et Bloc populaire, une subversion électorale inachevée. Les deux sont parus aux éditions du CERF. Pourquoi ça a pris tant de temps à votre avis, et la nomination d'Elisabeth Borne, et la composition du gouvernement ?
Alors je pense qu'il faut d'abord écarter une explication possible, celle d'une hésitation du président de la République sur la ligne politique à tenir, ou plus précisément sur ce qu'il va faire de son second quinquennat. Tout indique que celui-ci va être la continuation, voire l'accélération, la radicalisation du précédent quant aux mesures qui vont être prises. Ce qui peut expliquer, et ce qui explique, je pense, ce retard, c'est dans l'annonce du gouvernement et dans l'annonce du choix du Premier ministre au départ, c'est l'équilibre politique et plus précisément la communication politique dans la perspective des élections législatives. Je m'explique. Quels sont les dangers principaux pour Emmanuel Macron ? Longtemps, il a pensé que c'était le réveil de la droite qui pouvait le menacer. Il y a encore 6 mois, tout le monde parlait de droitisation, il y avait le phénomène Zemmour, tout cela. Et puis, depuis quelques semaines, l'unification, en tout cas l'unification au plan électoral de la gauche, fait apparaître une autre menace. Non pas que le président de la République craint beaucoup une défaite de son camp aux législatives, mais il n'aimerait pas avoir une opposition trop puissante d'un côté ou de l'autre. Tant et si bien, je pense qu'il a hésité sur les choix à faire. Est-ce qu'il fallait envoyer des signaux vers la droite ? C'était le cas davantage avec les deux gouvernements. Pardon, les deux premiers ministres précédents, M. Castex et M. Philippe, ou bien est-ce qu'il fallait envoyer plutôt des signaux vers la gauche pour la neutraliser ? C'est, semble-t-il, davantage le choix qui a été effectué.
Vous voulez dire que Elisabeth Borne, c'est un signal de gauche que Emmanuel Macron a envoyé aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ?
Tout ça, c'est des nuances, mais effectivement, autant Édouard Philippe était, on va dire, vaguement de droite, en tout cas avait fait une carrière sous l'étiquette de droite, autant Madame Borne est plutôt, pour ceux qui la connaissent, hein, ça ne fait pas grand monde, eh bien, est plutôt de gauche. Elle a travaillé avec Ségolène Royal, par exemple. Et puis là, on a sur un gouvernement d'une grande continuité par rapport à ce qui précède, et faisant alterner des gens de gauche et des gens de droite, comme d'habitude, et puis des gens qui ne se retrouvent plus du tout dans cette classification. Mais on voit, notamment avec le choix qui fait le plus parler, celui du ministre de l'Éducation nationale, M. Pape Ndiaye, on voit que c'est plutôt vers la gauche, voire même ceux qui sont tentés par le vote NUP, par le vote insoumis, que des messages sont adressés.
Effectivement, il y a un message qui est adressé, en tout cas, c'est que les trois ministres du précédent gouvernement les plus anti-woke sont partis. Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa, Frédéric Vidal ont été remplacés par l'historien Pape Ndiaye. Bon, il y a Gérald Darmanin, lui, est resté.
Oui, absolument. Alors évidemment, c'est plutôt amusant si on pense au ralliement des chevènementistes ou du printemps républicain. On voit bien que cela, qui prétendait peser en quoi que ce soit sur la ligne idéologique pouvoir, eh bien, en sont pour leurs frais. Mais je crois que là, il faut distinguer deux niveaux pour comprendre ce qui se passe avec ces départs et cette arrivée au ministère de l'Éducation nationale. Je crois qu'il faut distinguer le niveau politique, c'est-à-dire, c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'on est simplement dans probablement un petit coup préélectoral pour dire à pas mal d'électeurs de gauche qui ont voté au second tour par Emmanuel Macron, c'est pas la peine d'aller vous opposer à moi, je vous comprends, et au fond, vos valeurs sont représentées au sein du gouvernement. Ça, c'est l'aspect strictement politicien. Je crois qu'il y a un niveau plus important, c'est bien sûr le niveau idéologique. Je crois que ces départs d'un côté, ces nominations de l'autre, montrent que Emmanuel Macron persiste dans son projet qui date d'avant même sa première élection, c'est-à-dire celui d'une mise en conformité de la France par rapport aux normes internationales et plus précisément par rapport aux normes américaines. Et là, on est effectivement dans une transformation du cadre idéologique que du cadre républicain, puisque là, on passe dans une conception du monde qui est beaucoup plus proche de celle des campus anglo-saxons que de celle qui était jusqu'à présent celui du cadre français.
Et Éric Dupond-Moretti, qui est resté, alors que beaucoup le croyaient partant.
Alors là, c'est les arcanes, je vais être très prudent, c'est les arcanes des affaires, c'est les affaires judiciaires. Là, il faudrait véritablement un spécialiste pour le comprendre. Moi, je ne vais pas me lancer là-dedans. C'est un sujet très, très délicat. Quel est le message que le président de la République a voulu envoyer aux Français? Je ne crois pas que ce soit très important, mais aux magistrats, qui sont quand même, a priori, un des rares contre-pouvoirs qui existent. Eh bien, c'est ça qu'il faudrait comprendre, mais là, adressez-vous à un spécialiste.
On fait une pause, Jérôme Sadpari, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Jérôme Sadpari, vous êtes toujours en direct avec nous et vous êtes sondeur. Les sondages assurent, a priori, Emmanuel Macron d'avoir la majorité à l'Assemblée dans 3 semaines, même si l'alliance de gauche est annoncée, elle, en tête au premier tour. Mais enfin, il faut faire attention, il y a 577 circonscriptions, on ne fait pas 577 sondages.
Non, bien sûr, bien sûr. On a l'habitude maintenant, depuis que les élections législatives suivent directement à l'élection présidentielle, d'une confirmation du choix des électeurs qu'ils avaient fait justement au scrutin principal, au scrutin présidentiel. Là, on a cette nouveauté avec l'unification préélectorale de la gauche qui peut lui permettre d'être présente dans beaucoup de ces 577 circonscriptions au second tour. Inversement, on voit mal comment elle pourrait l'emporter face, dans beaucoup de cas, face au candidat LREM qui serait au second tour, puisque seuls 37% des Français souhaitent que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, que par ailleurs, le président de la République est relativement populaire, en tout cas pas trop impopulaire, il a 42% de bonne opinion chez BVA. Et qu'enfin, le nouveau Premier ministre, même si c'est une femme, eh bien, c'est 50% de bonne opinion. C'est moins bien que ce que faisait M. Castex ou M. Édouard Philippe lorsqu'ils ont été nommés Premier ministre. Mais enfin, ça reste relativement confortable. Et puis surtout, l'avantage permanent, structurel d'Emmanuel Macron, c'est qu'il existe non pas une seule, mais plusieurs oppositions. Et que ces oppositions sont irréconciliables entre elles. Je me vois très très mal des électeurs de Marine Le Pen aller voter pour un candidat de gauche, même par antimacronisme, après le soutien de la gauche à la réélection d'Emmanuel Macron entre les deux tours.
Mais sachant que Emmanuel Macron a été élu avec 28% des voix au premier tour, il se retrouve mathématiquement avec 72% d'opposants potentiels. Comment va-t-il les neutraliser alors qu'il veut continuer ses réformes?
Alors je crois que ces 28%, c'est pas si mal. 28%, c'est 4 points de plus que son score de premier tour il y a 5 ans. Or, il avait eu une majorité écrasante. Je crois que par rapport aux oppositions, Emmanuel Macron pratique de deux manières. Il y a d'une part les oppositions classiques, c'est-à-dire ce qui reste des Républicains et ce qui reste du Parti Socialiste non rallié à Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire les deux anciens grands partis de gouvernement. Cela, il peut les séduire. On a vu que M. Abad, par exemple, de chez LR, avait rallié le gouvernement. Et donc, il peut, par un jeu de séduction ponctuelle, personnalisée, les séduire. Et puis après, il reste deux autres oppositions qui, elles, sont radicales, qui sont enracinées à des titres divers dans les catégories populaires. C'est d'une part, et tout d'abord quand même, eh bien Marine Le Pen et le Rassemblement National, qui a l'électorat le plus ouvrier, le plus employé. Ceux-là sont clairement, ils sont quasiment tout le monde là-bas, est opposé à Emmanuel Macron. Et puis on a l'opposition, l'autre opposition quand même assez enracinée, même si elle a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour, autour de Jean-Luc Mélenchon, plus présente dans les petites classes moyennes et dans certains milieux populaires. Eh bien là, il a un immense avantage, c'est que ces deux oppositions sont franchement opposées. Et d'ailleurs, quand on écoute attentivement Jean-Luc Mélenchon et ses collaborateurs, eh bien, c'est avant tout contre le Rassemblement national que leur campagne est dirigée. Leur but véritable n'est pas tant de prendre l'Assemblée nationale que d'incarner en quelque sorte la principale opposition dans le prochain quinquennat. De ce point de vue-là, les catégories populaires, les classes moyennes, enfin ceux qui s'opposent le plus à Emmanuel Macron, sont profondément divisés, ce qui est bien sûr un gage de tranquillité pour le président de la République.
Oui, mais il y a la rue. Après, la capacité de mobilisation des classes populaires, où en est-elle? Parce que c'est peut-être aussi ça qui fait peur au gouvernement.
Alors c'est le grand mystère. C'est le grand mystère, c'est ce quatrième tour social, puisqu'il y a un troisième tour législatif, nous dit-on, maintenant il y aurait un quatrième tour social. C'est le grand fantasme et probablement la grande espérance de certains opposants et la grande crainte du gouvernement. On a vu lors de la cérémonie d'investiture qu'Emmanuel Macron était très prudent et que visiblement, alors qu'il a pratiquement tous les pouvoirs, il demeure, très marqué par l'épisode notamment des Gilets jaunes et ce caractère semi-insurrectionnel de ce mouvement. Alors je crois que, d'une part, c'est très difficile à prévoir. Ces mouvements surviennent toujours quand on s'y attend pas, pour ainsi dire. Mais enfin, il faut quand même que certaines conditions soient réunies. On l'avait vu pour les Gilets jaunes, étaient quelques-uns à avoir décrit avant les Gilets jaunes qu'il pouvait se passer ce genre de choses. Eh bien, je serai beaucoup plus prudent cette fois-ci. Il ne suffit pas que les gens soient mécontents pour se mobiliser, fort heureusement, sinon le pays serait ingouvernable. Pour se mobiliser, il faut qu'il y ait un mot d'ordre, il faut qu'il y ait un prétexte. Pour l'instant, je pense que le gouvernement sera extrêmement prudent. Et par ailleurs, il faut également une espérance. C'est-à-dire que de réussir à changer le cours des choses en assumant les coûts de la mobilisation. Les Gilets jaunes ont effectivement marqué un recul ponctuel d'Emmanuel Macron, mais à la fin des fins, et sa politique n'a pas été franchement modifiée. Ce qui l'a bloqué, c'est la Covid-19. C'est ni l'opposition au Parlement, ni l'opposition dans la rue. Et puis, il a été quand même réélu, et on peut même dire triomphalement réélu. Donc, si vous voulez, il y a l'histoire, le souvenir des Gilets jaunes, mais il y a aussi le souvenir chez les gens de l'échec des Gilets jaunes. Petite chose pour finir, les capacités de réaction et même les capacités de répression de l'État, c'est-à-dire des forces de police, de gendarmerie, de la justice, eh bien, sont, à mon avis, beaucoup plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 4 ans quand s'est développé le mouvement des Gilets jaunes. Et il ne faut jamais oublier que aller se mobiliser, c'est un coût. Il y a un risque judiciaire désormais. Il y a un risque d'affrontement, un risque de blessure, et ce n'est pas quelque chose qui est précisément agréable. Donc je pense que, pour toutes ces raisons, la perspective d'un quatrième tour social est largement une illusion.
Merci Jérôme Saint-Paris pour toutes ces explications. On a maintenant rendez-vous avec Jean-Sylvestre Mongrenier, c'est un spécialiste de l'OTAN.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Jean-Sylvestre Mongrenier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut français de géopolitique, chercheur associé à l'Institut Thomas More et spécialiste de l'OTAN. La Suède et la Finlande viennent de déposer leur demande d'adhésion sans délai à l'OTAN, mais ces deux pays n'étaient plus vraiment neutres. Hein. Ce sont déjà des partenaires proches de l'OTAN. Des manœuvres militaires conjointes ont déjà été organisées avec la Suède, comme avec la Finlande. Quand ils seront membres de l'OTAN à part entière, qu'est-ce que ça va changer ?
La grande différence, c'est qu'ils bénéficieront de l'article 5. Hein, donc c'est la clause de défense mutuelle, un pour tous, tous pour un. Le fait est que depuis le milieu des années 1990, il y a eu un rapprochement continu. L'entrée dans l'Union européenne, d'une part, puis d'autre part, à ce statut de partenariat. Mais le fait est qu'être partenaire, c'est pas la même chose qu'être membre de l'OTAN. Il suffit de considérer le cas de l'Ukraine, qui a également un partenariat avec l'OTAN, qui a des partenariats bilatéraux avec plusieurs pays membres de l'OTAN, mais tout ça, ça n'est pas équivalent à l'article 5. Donc c'est véritablement ça la grande différence. La clause de défense mutuelle, c'est ce que tout le monde cherche en tapant à la porte de l'OTAN.
C'est effectivement, c'est cette certitude que les États-Unis interviendront pour vous défendre. C'est dissuasif.
Oui, c'est dissuasif. Alors, rien n'est jamais certain en dernière analyse. Il faut toujours conserver ça à l'esprit. Hein. Mais le fait est qu'il y a cet article 5 avec l'engagement à réagir, en tout cas. Et puis d'autre part, il y a tout un dispositif militaire. Hein. C'est ce qu'on appelle l'OTAN à proprement parler. Hein. Vous avez l'Alliance Atlantique et puis l'organisation militaire du traité de l'Atlantique Nord qui a été mise en place l'année suivante. Hein. L'OTAN, la charte de l'Alliance Atlantique a été signé en 1949, et puis l'organisation militaire a été mise en place à partir de 1950-51, au moment où se déroulait la guerre de Corée, parce que ce que l'on craignait, c'était qu'il y ait également des répercussions en Europe occidentale, donc fallait montrer qu'il y avait tout un dispositif qui était prêt, des états-majors, des chaînes de commandement, des unités militaires à disposition de ces chaînes de commandement, et donc ça, c'est une garantie supplémentaire avec l'empreinte militaire américaine en Europe, aujourd'hui à peu près 100 000 hommes.
La seule fois de son histoire où l'article 5 a été invoqué, c'est pas pendant la guerre froide, hein, mais après les attentats perpétrés contre les États-Unis le 11 septembre 2001. Qu'est-ce que ça a provoqué ?
Alors, il y avait eu un certain nombre de moyens propres à l'OTAN qui avaient été mobilisés. Bon, en gros, l'OTAN, c'est avant tout des états-majors, des chaînes de commandement. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que les moyens militaires appartiennent aux nations. Mais cela dit, à l'intérieur de l'OTAN, il y a un pool de nations qui s'est constitué pour acheter ce qu'on appelle des AWACS, c'est-à-dire des espèces d'avions radars qui permettent de couvrir tout un théâtre d'opérations. Et entre autres mesures qui avaient été prises à cette époque, ça avait été la mise à disposition d'un certain nombre d'AWACS de l'OTAN pour contribuer à la sécurité des États-Unis.
L'intervention militaire en Afghanistan, c'est pas le résultat de l'article 5, parce que il y a plusieurs pays de l'OTAN qui y participent à ce moment-là, dont la France.
Alors pas tout de suite, parce qu'au départ c'est une coalition. Les États-Unis avaient fait le choix d'une coalition parce que c'est beaucoup plus souple, et donc c'était des pays membres de l'OTAN, mais ils participaient à cette coalition non pas en tant que membres de l'OTAN. L'OTAN en tant que telle n'était pas engagée, et l'OTAN a été engagée à partir de 2004. 2005, à la demande d'ailleurs des alliés européens principalement, parce que c'était beaucoup plus simple pour assurer, si vous voulez, en gros son tour de garde en Afghanistan, de pouvoir s'appuyer sur les structures, sur les chaînes de commandement de l'OTAN. Donc les Allemands, les Néerlandais notamment, avaient demandé à ce que l'on se tourne vers l'OTAN, et de ce fait, ça permettait une continuité tout au long de l'opération.
Une fois la Finlande membre de l'OTAN, la Russie se retrouvera avec 1300 km de frontières communes supplémentaires avec l'OTAN. C'est exactement ce que Vladimir Poutine voulait éviter en Ukraine. C'est une mauvaise affaire pour lui.
Ah, il est sûr qu'il a précipité ce qu'il voulait éviter. Mais alors, cela dit, faut quand même conserver l'esprit que la raison de son intervention en Ukraine, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'OTAN, puisque l'éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, comme celle de la Géorgie, elle avait été reportée sine die. Ça faisait 13-14 ans qu'on en parlait, mais que ça ne se produisait pas. En fait, la Russie a ses objectifs propres dans cette affaire. Elle veut s'emparer, ou elle voulait s'emparer, de la totalité de l'Ukraine. Aujourd'hui, elle a été obligée de redéfinir ses objectifs à la baisse, mais c'était pas une réaction à une quelconque avancée de l'OTAN, contrairement à ce que disait à ce qui était avancé dans le discours russe. Alors maintenant, il est vrai que la Finlande ainsi que la Suède dans l'OTAN, ça vient changer quand même beaucoup de choses. Ça vient changer notamment l'équilibre des forces à l'intérieur de la Baltique. À ces dernières années, la Russie cherchait à faire de la Baltique une sorte de lac russe en déployant des systèmes antimissiles, antiaériens, etc. Et on redoutait notamment toute une menace pour la sécurité des États baltes, enclavés en quelque sorte, avec la Suède et la Finlande dans l'OTAN. Ça serait une sorte de désenclavement des États baltes, et la défense des États baltes serait beaucoup plus aisée à organiser.
Les États baltes sont, eux, membres de l'OTAN. L'Estonie et la Lettonie ont des frontières communes avec la Russie. Il y a là-bas une présence renforcée de l'OTAN, mais est-ce que des armes nucléaires y sont déployées ?
Ah non, aucunement. Bah, les armes nucléaires déployées dans le cadre de l'OTAN, bon, alors il y a les pays qui sont dotés, comme l'on dit, bah, les puissances nucléaires, les États-Unis, bien sûr, le Royaume-Uni, la France. Hein, et sinon, après, quand on parle d'armes nucléaires, dans le cadre de l'OTAN, ce sont des armes nucléaires tactiques, en nombre assez réduit. Bah, il doit y avoir 250, peut-être 300, alors que les Russes ont conservé 2000 armes nucléaires tactiques, et elles sont réparties sur 4 ou 5 pays. Bah, donc, il y a le Royaume-Uni qui en accueille, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas de la Turquie, notamment la Belgique aussi, mais j'en suis plus tout à fait sûr au moment où je vous parle. Et il ne faut pas penser qu'être membre de l'OTAN, ça implique automatiquement le déploiement d'armes nucléaires. Hein, loin s'en faut, on voit que c'est uniquement un petit nombre de pays membres de l'OTAN qui accueillent des armes nucléaires.
On fait une pause, Jean-Sylvestre Mongrenier, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur à l'Institut français de géopolitique, chercheur associé à l'Institut Thomas More et spécialiste de l'OTAN. On peut dire en fait que la Russie est menacée par des milliers d'armes nucléaires américaines, mais aussi françaises et britanniques, comme nous sommes, nous, menacés par des milliers d'armes nucléaires russes. Ça s'appelle la dissuasion. Accueillir deux pays de plus, ça augmente notre sécurité ou ça augmente les risques en ouvrant notamment un nouveau front, comme vous l'avez dit, en mer Baltique ou en Arctique?
Ça accroît notre sécurité globalement, ça vient renforcer, ça donne plus de cohérence à cette zone euro-atlantique. Et puis il faut bien comprendre que c'est une réaction à la politique russe, c'est quelque chose qui était même encore inconcevable il y a quelques mois, qu'il y ait des rapprochements, des coopérations avec la Finlande, la Suède, c'est quelque chose qui date du milieu des années 1990, mais c'est véritablement le passage à l'acte de la Russie, ce qui était redouté finalement ces produits, qui a produit un basculement dans la classe politique finlandaise, dans la classe politique suédoise, également dans les opinions publiques de ces deux pays. Donc c'est destiné à renforcer la dissuasion, à prendre des mesures préventives pour s'assurer que la Russie, ou en tout cas que le Kremlin, ne soit pas induit en tentation.
On a parlé de la Baltique, mais il y a l'Arctique aussi. La Suède est assez présente en Arctique.
La Suède, la Norvège surtout, bon, puis après de l'autre côté de l'Arctique, de l'autre côté de la façade russe de l'Arctique, vous avez le Canada, vous avez les États-Unis. Donc le fait est que l'Arctique est une zone géostratégique qui a gagné en importance ces dernières années, surtout avec la perspective, alors peut-être quand même un peu exagérée, mais de l'ouverture à de nouvelles routes maritimes entre l'Europe et l'Asie. Le fait est qu'il y a des enjeux aujourd'hui dans l'Arctique, également la question des ressources énergétiques. Et donc ça fait partie des zones où il y a un certain nombre de tensions. Il y a des revendications de la Russie sur à peu près 1 200 000 km², y compris le pôle Nord. Alors bon, jusqu'ici, ça restait dans un cadre institutionnel, légal, avec déposition d'un dossier auprès de l'ONU pour demander à élargir la zone économique exclusive de la Russie. Mais au regard de la manière dont les choses tournent en Russie, et puis il faut bien voir que ça s'inscrit quand même dans des années de préparation, le fait est que les différents pays de la zone redoutent un éventuel coup de force de la Russie, d'où la volonté de prendre les devants.
Aujourd'hui, la Russie aurait-elle les moyens d'affronter l'OTAN ?
Frontalement comme ça, non, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous savez, le rapport des forces entre les pays, parfois il peut être dissymétrique, et puis ça dissuade pas forcément la puissance adverse, si elle est animée par une forte idéologie, par la conviction qu'elle peut l'emporter, elle peut très bien surjouer sa main, si vous voulez. Si on regarde le rapport des forces global entre le Japon d'une part, les États-Unis de l'autre en 1941, ça semble complètement fou que le Japon puisse éventuellement s'engager dans une opération contre les États-Unis. Ça n'a pas empêché la chose.
Ils n'avaient aucune chance et ils l'ont fait quand même.
Si le monde était uniquement régi par des intérêts froids, ça se saurait. En fait, ce sont les passions, le déchaînement des passions, ouais, qui font l'histoire. Hein, Raymond Aron nous expliquait bien ça, d'ailleurs, entre autres.
Jean-Sylvestre Mongrenier, la France fait partie des membres fondateurs de l'Alliance Atlantique. Elle n'a jamais quitté l'OTAN, même si le général de Gaulle l'a fait sortir du commandement intégré en 1966, qui a causé le départ des troupes américaines de notre pays et la fermeture de leurs bases militaires. On est revenu dans le commandement intégré sous Nicolas Sarkozy. Ça a changé quoi?
Alors d'abord, on n'est jamais véritablement sorti du commandement intégré. Il y a toujours eu des officiers français dans le commandement intégré. Simplement, ils n'étaient plus mis à disposition de la technostructure de l'OTAN. Ils avaient le statut d'officier de liaison. Mais il y avait forcément une présence française. Alors concrètement, la pleine participation, je dirais, de la France au commandement intégré à partir de 2009, tout d'abord, à mon sens, c'est un acte de cohérence. Ça, la France est membre fondateur, pleinement engagée dans l'Alliance Atlantique. Elle bénéficie de l'article 5 et elle contribue à la solidité de cet article 5. Hein, et donc il n'y a pas de raison qu'elle reste en marge du processus à travers lequel s'élabore la planification stratégique. Et puis ensuite, de manière plus concrète, ça a permis à la France de bénéficier d'un certain nombre de postes, de haut rang, notamment le commandement de la transformation. Il y a deux grands commandements de niveau stratégique. À l'intérieur de l'OTAN, le commandement des opérations, c'est un général américain, à Mons, ce qu'on appelle le SACUR, et puis il y a le commandement de la transformation qui est à Norfolk, donc aux États-Unis, et c'est un officier général français qui a reçu ce commandement. Il est attribué aux Français depuis. Alors ensuite, après, quand on regarde en dessous, il y a tout un certain nombre de postes d'importance qui ont été confiés à des Français. Donc ça permet finalement d'avoir des positions à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler la technostructure de l'OTAN en rapport avec le poids politique, militaire de la France à l'intérieur de l'Alliance Atlantique.
Dernière question, il nous reste très peu de temps. En termes d'armement, est-ce que ça implique d'acheter du matériel militaire américain pour qu'il soit autant compatible, c'est-à-dire ravitaillable et interchangeable, ce qui rendrait les pays de l'OTAN dépendants des États-Unis?
Non, il n'y a absolument aucune obligation. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est l'équipement de la France. Ou encore, si on prend, on peut prendre d'autres pays, le Royaume-Uni ne s'équipe pas exclusivement en matériel américain. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Europe, dans la zone euro-atlantique, mais enfin on va laisser de côté les États-Unis, en Europe même, vous avez à peu près 5 pays producteurs d'armement qui représentent environ 90% de la production d'armement européenne. Et donc à tous les autres pays, ce sont des pays consommateurs. Et donc ils cherchent la meilleure offre possible, au meilleur coût possible. Et puis bien souvent, les matériels américains s'imposent. Mais sinon, les Rafales, par exemple, français, ils sont interopérables avec l'aviation américaine, avec l'aviation des autres pays membres de l'OTAN.
Merci Jean-Sylvestre Mongrenier. Merci pour tous ces renseignements. On fait une pause. On se retrouve dans un instant avec Fab Caro. On va parler de tout autre chose. On va parler Rome photo.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Fab Caro, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez parti pour être prof de physique et puis vous êtes devenu un auteur de bande dessinée réputé. On vous doit notamment Zaï 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 qui s'est vendu à 300 000 exemplaires. Vous allez peut-être réitérer ce succès avec Guacamole Vaudou qui vient d'entrer dans le top 20 des meilleures ventes. Mais il ne s'agit pas cette fois d'une bande dessinée. C'est un roman photo interprété par Éric Judor, un genre, le roman photo, qui avait disparu après avoir été très populaire dans les années 50, l'hebdomadaire Nous Deux se vendait à 1,5 million d'exemplaires par semaine grâce à ses romans photos. C'est parce que c'est considéré comme ringard que vous avez eu envie de vous lancer là-dedans avec Éric Judor?
Oui, voilà, c'est ça. Non, on a réalisé que c'était un super support pour faire de l'humour, justement. Justement parce que c'était très, très codifié. Plus c'est codifié, plus ça offre de liberté, plus on peut décaler le propos. Donc s'amuser avec le roman photo, c'était le support idéal.
Mais alors justement, le roman photo a toujours été considéré comme gnangnan. Et on se dit, qu'est-ce qui l'empêche d'être intelligent et drôle? Rien, a priori.
Ouais, c'est ça. À l'époque, c'était des espèces de bluettes, des histoires d'amour, vraiment avec des scénarios faits en 2 minutes. Et l'idée de le décaler, c'était... Enfin, c'est dommage. Je trouve que c'était du gâchis de raconter que des bluettes avec le roman photo. Ça offre tellement de possibilités.
Est-ce que c'est proche de la bande dessinée pour vous?
Moi, moi, la démarche a été un petit peu, ouais, ça a été très proche. Moi, j'ai scénarisé comme ça, comme je scénarise les BD, c'est-à-dire avec un storyboard comme ça. Donc, mon travail à moi était très proche de la BD, oui.
Et alors, vous l'avez situé dans les années 70, on reconnaît ça au papier peint, aux tenues extravagantes des personnages et aux chevelures permanentées. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'est kitsch, les années 70.
Ouais, voilà, c'était ça. Pour nous, le roman photo, c'était rattaché à cette époque, c'était 60-70. On avait envie de... Alors, même si le propos est... Il y a des références contemporaines, mais on avait envie que le cadre et le... soit ouais, très kitsch, avec des perruques, des couleurs criardes, des grosses perruques, costumes à carreaux, tout ça. On avait envie de retrouver ce truc-là.
Il y a un générique à la fin. On voit que c'est une grosse production, un roman photo. Hein. Ça emploie beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup plus qu'une bande dessinée.
Ah oui, là, pour le coup, c'est plus de moyens qu'une BD. Ouais, ouais. Alors, la BD, on peut inviter des personnages fictifs. On peut... Là, pour le coup, des vraies personnalités sont venues sur le plateau. Et c'était joyeux, c'était jouissif.
Vous étiez sur le plateau vous-même, on dit un plateau, hein, pour un roman photo au cinéma. Hein.
Ouais, ouais, bah, j'ai assisté aux prises de vue photo. Enfin, moi, le gros du boulot a été d'écrire le scénar. Mais après, j'étais sur place pour voir un petit peu. Bon, j'ai pas géré grand-chose, mais ne serait-ce que pour le jeu, c'était très joyeux. C'était une espèce de cours de récré, cette étape-là. Ouais.
Alors, comment ça se répartit ensuite? Parce que le scénariste est assez mal vu au cinéma. On le traite comme moins que rien. Mais il est très bien vu dans les séries, par exemple. Il est très bien vu aussi dans la bande dessinée, même s'il est moins bien vu que le dessinateur. Dans les romans photos, c'est comment? Vous avez votre statut en tant que scénariste? Respectable?
Je crois que c'était assez respectable, j'espère.
En tout cas, votre nom, en gros, sur la couverture.
Ouais, ouais. Non, ça a été... j'ai été écouté, je crois.
Alors, au même moment, sort Samouraï, votre quatrième roman, sous votre vrai nom, cette fois, Fabrice Caro. C'est l'histoire d'un type qui vous ressemble un peu, hein, que sa petite amie quitte pour un universitaire, pour un intellectuel. Et comme elle lui disait tout le temps, tu ne veux pas écrire un roman sérieux, il décide de la prendre au mot, histoire de l'impressionner, et d'écrire un livre poignant, un livre profond, avec, dit-il, la concentration d'un guerrier samouraï. C'est un peu autobiographique, vous avez eu la même tentation parfois ?
Le roman sérieux, non. Même si l'humour souffre un petit peu d'un déficit de crédibilité, malgré tout, moi je crois que je ne sais pas faire autre chose que de l'humour. Je crois, quoi que j'écrive, il faut que je passe par le filtre de l'humour, sinon je ne saurais pas traiter les choses. Moi, l'humour me sert d'outil un petit peu pour parler de choses un petit peu sérieuses, mais un roman sérieux, non, je crois que j'en serais incapable. Je ne sais pas faire ça.
Mais c'est vrai que l'humour souffre d'un déficit de crédibilité, particulièrement dans la littérature. Or, vous êtes un véritable écrivain comique. Il suffit de lire Samouraï, on s'en aperçoit tout de suite. Et c'est vrai qu'en France, ça ne prend pas. Hein. Les Anglais aiment beaucoup ça.
Ouais,
les Américains aussi.
En littérature ou au cinéma, c'est toujours considéré comme un sous-genre, un petit peu, la comédie. Alors que moi, je trouve ça très sérieux. Enfin, l'humour, c'est très sérieux. C'est quelque chose de... Il faut être rigoureux pour faire de l'humour.
Non seulement c'est très sérieux, mais il y a une vraie littérature d'écrivains comiques. Il y en a eu, je ne sais pas, vous avez quelques références vous-même? Vous avez des modèles?
Oh, qu'est-ce que... Moi, j'ai des souvenirs de David Lodge. Je me rappelle la première fois que j'ai découvert qu'on pouvait faire de la comédie en littérature, c'était David Lodge. Je crois que j'avais lu Thérapie. Je me suis dit, ah, mais on peut faire des choses drôles en essayant d'écrire, de faire de la littérature. Je crois que ça a été le premier déclic. Oui.
Mais quand vous mettez à écrire un roman, ça n'est pas de la bande dessinée, ça n'est pas du roman photo, c'est un roman. Vous avez votre humour, vous le conservez. Néanmoins, est-ce que tout à coup, vous vous dites, là, c'est un autre art. Je n'écris pas de la même manière que quand j'écris une bande dessinée?
Ouais, c'est une autre approche. Ouais, ouais. Là, c'est plus l'envie d'écrire, c'est l'envie de mots. Alors qu'en BD, bon, il y a ce cahier des charges, il faut être drôle, donc j'essaie de faire rire. Bon, j'y arrive pas toujours, mais en tout cas, c'est le cahier des charges. En littérature, c'est plus une envie de mots, une envie d'écriture. Après, si c'est un petit peu drôle, c'est encore mieux. Mais c'est plus, je suis guidé par les mots et je me permets une certaine mélancolie, une sentimentalité que je m'autorise pas en BD.
C'est vrai que ce personnage est assez sentimental.
Ouais.
En BD, alors c'est vrai que le sentimental, ça, c'est mal vu.
Ouais.
L'humour est bien vu, le sentimentalisme, pas.
Ouais, en tout cas, moi, j'ai plus de mal avec la BD. Pour moi, la BD, je suis plus dans l'efficacité. Je me dis, bon, essayez d'aller chercher le rire, si possible le rire sonore. Alors ça, c'est encore plus difficile. Pas le sourire, essayez d'aller chercher le rire sonore. Donc ça, c'est la mission que je m'impose quand je fais de la BD.
Et quand vous relisez votre roman, Samouraï, est-ce que vous voyez là où c'est drôle ?
Alors, je relis rarement mes romans parce que je le faisais avant, mais de suite, je vois les défauts. J'imagine que ça fait ça à tout le monde, à tous les auteurs. Donc, j'ai tendance à voir de suite les défauts. Donc, j'évite de me relire une fois que le livre est sorti. Et Mais c'est marrant parce que tout le monde ne rit pas des mêmes passages. Des fois, j'ai des retours en dédicace comme ça. Chacun a ses petits passages préférés. C'est ça qui est bien, je trouve.
Vous êtes, en tant que romancier, édité chez Gallimard, mais pas dans la collection Blanche, qui est réservée aux romanciers sérieux. Hein. Vous êtes dans la collection Signe. C'est le signe de quoi, quand on est chez Signe?
La collection Signe, au départ, elle est née justement d'une envie de transversalité. Comme ça, l'éditeur Thierry Laroche avait envie de faire venir des auteurs d'autres univers. Donc, il est allé chercher dans la BD, dans le littérature jeunesse. Et cette envie d'aller d'autres univers, de mélanger un petit peu les genres comme ça.
Est-ce que vous avez envie maintenant de retâter du roman photo? Est-ce qu'il y a un art du roman photo d'abord que vous avez découvert? Et est-ce que vous avez envie d'y retourner?
Ah, pourquoi pas remettre ça? C'était tellement joyeux comme expérience. En tout cas, le support permet de vraiment s'amuser. Donc pourquoi pas si l'occasion se représente.
Et il y a un art du roman photo, vous dites?
Ah, je crois aussi. Je crois, et même, c'est pas assez exploité. Alors ça commence maintenant, mais je trouve que c'est pas assez exploité. De la même manière qu'on dessine, pourquoi pas faire des photos et puis s'amuser avec ça, avec ce support-là.
On est obligé d'avoir de très bons comédiens comme Éric Judor.
Pour le roman photo, alors il y a un petit peu de tout dans le roman photo. Il y a des très bons comédiens, il y en a d'autres qui venaient en touriste comme ça, dont moi qui fais une apparition alors que je suis le pire comédien qui soit. Donc non, il suffit de... L'idée c'est de ne pas trop surjouer, pour accentuer le décalage. Mais non, il y a autant d'amateurisme que de professionnalisme là-dedans.
Merci Fab Caro. Guacamole Vaudou, c'est donc le roman photo qui vient de paraître chez Seuil. Et Samouraï, c'est votre roman chez Gallimard dans la collection Signe.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour la suite et je vous laisse entre de bonnes mains Pierre de Villeneuve et les grandes voix d'Europe 1. Bonjour Pierre.
Bonjour Frédéric. Aujourd'hui, deux sujets majeurs. Évidemment, la composition du nouveau gouvernement Borne qu'on attendait depuis 15 jours et la guerre en Ukraine. 86e jour de combat. Est-ce qu'on peut encore croire à la paix?
Bonne émission.
Merci.